Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 14h03 et on est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Benjamin Amar, Juliette Briens et Fred Hermel. Dans un instant, nous allons parler de la journée mondiale du fromage. Il fait partie de notre patrimoine culinaire et pourtant, on en consomme de moins en moins en France. Alors, faut-il réhabiliter le fromage à la fin des repas? Est-ce qu'il faut remettre des charbons à fromage, par exemple, au restaurant? On en débat avec vous au 3216 et sur l'appli RMC. RMC Conso, ce sera à 14h. Oula. À 14h30,
ça s'emballe.
Avec une mauvaise nouvelle pour les Français, vous toucherez votre salaire en retard ce mois-ci. Après, vous ne serez peut-être même pas payé en mars. On vous expliquera pourquoi. Et puis, il y aura les immanquables, Rémi.
Oui, on parlera notamment de l'hymne pour les Jeux Olympiques, des villes les plus dangereuses de France et de la décote de votre voiture.
Quelle voiture?
Bah, si vous avez une voiture, vous savez que chaque année, chaque mois, elle perd un peu en valeur.
D'accord.
Et là, il y a des chiffres précis.
Ah, bah écoutez, on a hâte, Rémi. Et puis, il y aura bien sûr Vincent Serroussi, notre humoriste, à 14h50.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à la journée mondiale du jour. Vous savez qu'il y a des journées mondiales tous les jours. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la journée mondiale du fromage. Et alors que le fromage fait partie de notre patrimoine culinaire, eh bien, on en consomme de moins en moins en France, moins 3% cette année. Prix élevé, goût prononcé. Rémi, les fromages n'ont plus la cote.
Oui, alors on parle bien du fromage de qualité. Hein.
Oui, on parle pas du fromage industriel.
Sans goût industriel insipide, mais là, on parle des fromages bénéficiant de l'appellation AOP, appellation d'origine protégée, forcément plus cher, et ça fait mal en période d'inflation.
Ah ouais.
En 2022, 7292 tonnes de fromage au lait de chèvre, par exemple sous appellation d'origine protégée, AOP, ont été commercialisées. C'est une baisse de 2,2% sur un an. Les blesses les plus marquées concernent le rocamadour, moins 8%, le mâconnais, moins 21%, ou encore le Pouligny-Saint-Pierre, moins 19%.
Ah ouais.
Or, l'AOP, ce n'est pas rien. Si le label de qualité a été créé dans les années 80, c'était justement pourquoi? Bah, pour perpétuer un savoir-faire. Exemple, avec le roi des étals des fromagers, le camembert. Or, l'AOP, le fromage au lait cru moulé à la louche, le camembert, ne représente plus qu'un petit dixième des quelques 500 millions de camemberts qui s'écoulent chaque année à travers le monde. Bah, avec une baisse de qualité évidente dans ce qui se vend. Eh, c'est des camemberts complètement plâtreux, etc., qui n'ont que le nom. Avec, à tel point que les moisissures qui font la consistance de la croûte du camembert, trop manipulées par l'homme au niveau industriel, eh bien, ont engendré une chute drastique de la diversité génétique de ces espèces. Bah oui, il y a une diversité génétique des espèces.
Il y a des espèces de camembert? Ah non, de moisissures. Oui.
Moisissures. Même chose pour le roquefort, à tel point que d'après le CNRS, c'est très sérieux, le risque de voir ces deux fromages, le camembert, le roquefort, disparaître, existe bel et bien.
Alors, faut-il réhabiliter le fromage à la fin de nos repas? Ça se fait de moins en moins, Juliette Briens.
Moi, je ne savais pas que la situation était aussi dramatique.
La situation
je suis quand
dramatique.
Même très étonnée, puisque j'ai quand même l'impression que la grande majorité des gens adorent le fromage. Pourquoi on en mange moins à la fin des repas? Bah, tout simplement parce qu'effectivement, on n'est plus dans cette logique de entrée, plat, laitage, dessert, etc. On ne vit plus comme ça aujourd'hui, effectivement. Après,
c'est malheureux.
Est-ce qu'il faut le ramener au restaurant? Moi, je dis oui, parce que je fais partie des personnes qui, entre fromage et dessert, remplacent le dessert par le fromage, ça c'est
mais
sûr.
Si.
On fait rarement tout jusqu'à la fin, mais s'il faut choisir entre fromage et dessert, moi je choisis systématiquement le fromage, donc ramenons-le au restaurant sous forme de chariot. Mais ce que je voudrais dire,
le chariot de fromage, c'est la vie en fait.
Il n'y a rien de mieux.
C'est extraordinaire et ça se perd.
Ça se perd, ça c'est sûr.
Il y a même des restos, il n'y a pas de fromage.
Donc là je dis, il faut le ramener. Mais en fait, c'est parce que je pense que de toute façon, le fromage, c'est comme tout, c'est une mode. Il y a des modes culinaires dans la vie. Donc, il faut ramener le fromage à la mode. Et ça, ça peut être la responsabilité des coopératives. Par exemple, sur le camembert, comment on fait pour ramener le camembert à la mode? Je sais pas, passer par des influenceurs de la cuisine,
créer des recettes avec. Les influenceurs vanter les mérites du camembert, je pense que ça me donne envie de les acheter.
Quand je parle d'influenceurs, je parle des influenceurs de culinaire.
Ah oui, moi j'étais sur la télé-réalité, donc j'étais pas dessus.
Non, mais je parle pas des... Non, je parle des influenceurs culinaires qui font des recettes sur Instagram, sur TikTok.
Il y a plein de recettes de fromage.
Des millions de vues. Bah, s'ils mettent le camembert à l'honneur, bah, peut-être le camembert va revenir à la mode. Voilà, je donne des solutions, hein, moi, après.
Moi qui passe ma vie à regarder des reels sur Instagram de recettes de cuisine, je vois passer énormément de recettes de camembert au four, par exemple,
la mozzarella, la bufala, etc. Ouais. Ça, c'est à la mode. Voilà, mais c'était une mode. Avant, on mangeait pas autant. C'est devenu, ça a explosé, mais c'est devenu la mode.
Mais pourquoi la mozzarella, c'est devenu une mode?
Parce que je sais pas.
C'est tout blanc. C'est je veux dire, il n'y a pas d'aspérité. Et la mozzarella dans le supermarché n'a strictement aucun goût, je parle pas de la vraie mozzarella italienne. Mais et donc en fait voilà, et c'est à mon avis, Fred, peut-être que tu me démentiras, mais c'est aussi à l'image, effectivement, on en a pas mal parlé dans cette émission, mais de l'aseptisation de la société. Ouais. Voilà, le fromage, ça a du goût prononcé, quoi.
Et le maroilles, ça pue, quoi.
Ouais.
Alors c'est super bon. Alors c'est beaucoup plus impressionnant au niveau de l'odeur qu'au niveau du goût, parce que c'est pas si fort que ça le maroilles. Mais voilà, après le Roquefort, c'est une merveille. Mais c'est vrai que il faut avoir un goût un petit peu préparé, un palais un petit peu éduqué. Donc ça c'est merveilleux. Alors moi j'ai
t'as peu d'enfants qui aiment le Roquefort parce qu'on l'aura pas forcément appris.
Le mien il aimera le Roquefort. Le mien et moi. C'est vraiment mon fromage préféré. C'est quoi votre fromage préféré?
Moi j'en ai trois.
Non, c'est un vieux Fèvre. T'as pas le droit de dire trois.
Non mais si, mais non, parce que c'est pour les saisons. Non, le Brillat Savarin truffé. Ça, c'est à mourir.
Ah ouais, c'est...
Le camembert plâtreux.
Ah non.
Et le Roquefort.
Quel nul celui-là.
Et le Roquefort.
Ah non. Mmh. Un vieux chèvre, tu sais, qui est resté dans l'étagère du fromager pendant des mois, mais il n'y a rien de mieux.
Ouais, affiné.
Juste, Benjamin Amar, on le sait, dans les cantines, par exemple, on voit que des fromages aseptisés. Alors, le fromage à croûte rouge, vous voyez ce que je veux dire, du Kiri. Vous avez aussi...
Le fromage au triangle.
Le triangle président. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Alors, j'imagine que c'est aussi pour des raisons de sécurité alimentaire, mais c'est vrai qu'on ne sert pas de Roquefort aux enfants, quoi. Et c'est peut-être un tort.
C'est surtout une question de prix. C'est une question de prix. On se retrouve ici dans les mêmes débats que quand on avait pu parler de la bonne viande. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de prix qui fait qu'il y a des millions de Français qui doivent se contenter du fromage industriel sous vide de telle ou telle grande marque de distribution. Et moi, je connais des tas de gens autour de moi qui adorent le fromage, mais qui me disent ça, je vais plus chez le fromager parce que ça coûte trop cher. Alors que, en réalité, enfin, moi, j'ai pu le constater, entre le fromager et la grande distribution, des fois, vous pouvez.
Il y a une grosse différence.
Vous pouvez, pour le coup, alors c'est vrai que pour la viande.
Mais t'as une grosse différence de prix.
L'écart est finalement.
T'as une très, très grosse différence de prix.
C'est vrai que pour le fromage, ça peut être plus important, mais. Enfin, moi, je sais que je préfère ne prendre moins de fromage et le prendre de grande qualité parce que le fromage industriel, c'est dégueulasse. Mais incontestablement, la problématique du pouvoir d'achat, elle est là aussi primordiale. Et dans les cantines où on a quand même une question de budget, on est obligé de se contenter.
C'est dommage.
Et effectivement,
ça fait partie de l'apprentissage du goût. Voilà, on nous met des menus végétariens, des trucs comme ça.
Et moi,
j'ai
emmené les élèves en Italie là il y a quelques semaines. On a fait un voyage à Venise. On a au moins la pizza, c'est quelque chose vers lequel ils se dirigent. Mais effectivement, les jeunes ont une nourriture très standardisée, très aseptisée, qui est finalement grosso modo assez dégueulasse. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris un grand morceau de pecorino et j'ai coupé un certain nombre de morceaux. Les gamins étaient tous d'accord, enfin pas tous, mais les deux tiers étaient tous d'accord pour dire que c'était formidable. Formidable, que c'était bon. Donc je pense que la question du pouvoir d'achat est primordiale.
Ils n'en avaient pas mangé chez eux.
Ah non, jamais. Découvrez le pecorino.
Mais c'est ça qui est fou. Enfin, il y a pas cette éducation aussi. Voilà, le fromage fait partie de notre patrimoine culinaire.
Il y en a un paquet qui ont acheté parce que le pecorino, vous pouvez en trouver à des prix corrects, qui sont pas retournés chez eux avec un certain nombre de souvenirs gastronomiques.
Ouais, c'est ça.
J'ai même pu conseiller quelques bouteilles de Bardolino ou quelques bouteilles de Grappa comme cadeau, et je pense que ça va faire plaisir.
Oui, mais comme quand on partait en classe de neige, on ramenait toujours de la tome de Savoie, tu vois, quand on était petit. On est avec Liliane qui nous appelle de Montfort dans le Gers, qui est retraitée et qui est dingue de fromage. Bonjour Liliane.
Bonjour. J'ai toujours mangé beaucoup de fromage dans ma vie. Petite, je mangeais déjà du fromage dans mon petit déjeuner.
Moi aussi, je fais ça.
Ah bah,
c'est dans mon café.
Mais, de toute façon, j'ai jamais pu manger quelque chose de sucré le matin. Ça m'écœurait, ça me, ça m'a pas empêché d'avoir du diabète, par contre.
Bon, ça c'est un autre problème, Liliane. Mais Liliane, alors vous êtes retraitée. Est-ce que vous avez des enfants, Liliane?
Oui, bien sûr. J'ai un garçon, une fille. Bah, c'est pareil. Hein, le matin, on est tous capables de manger un beefsteak le matin à la maison, mais c'est le fromage qu'on préfère.
D'accord. Donc vous les avez éduqués à ça, en fait?
Ah bah oui. Bah oui, parce que chez nous, le Nutella, c'est pas acheté. Il y a une petite fille qui mange ça maintenant.
Et votre petite fille, elle a quel âge, Liliane?
Elle a 12 ans.
Et est-ce qu'à 12 ans, justement, elle aime, comme vous, le vrai fromage? Allez, on va dire le fromage avec le goût prononcé.
Oui. Les poisses, tous ces fromages-là. En fait, on aime les fromages qui puent et qui coulent.
Moi aussi. Donc, moi aussi, le vrai fromage, voilà, quoi.
Oui, bien sûr. Moi, le camembert, quand je l'achète, d'abord, j'en achète des bons. Enfin, j'espère en acheter des bons, parce que c'est pas toujours le cas. Mais quand je les mets à mûrir. Je le
tourne
tous les jours pendant un bon moment, et quand on le coupe, ben il faut le manger quasiment dans la journée, parce que le lendemain.
Oui, c'est pas possible. C'est pas comme les camemberts plâtreux, bien sûr, de Fred Hermel. C'est un manque d'éducation.
Je n'aime même pas les pâtes cuites. Enfin, à part le gruyère quand on le met sur des pâtes ou des trucs comme ça, mais les pâtes cuites, non,
Le comté.
Et Liliane, vous achetez votre fromage en supermarché ou en fromagerie?
Alors, depuis que je suis dans le Gers, j'ai pas trop le choix. À part les petits fromages qui sont fabriqués par des petits fermiers autour qui vont au marché, etc. On a un bon petit qui fait de la chèvre et du brebis qui est très très bon. Mais sinon, ici, des fromagers, je veux pas aller à Toulouse, ça fait je sais pas combien de kilomètres.
En supermarché, il y a parfois des fromageries où ils vendent des fromages locaux.
Les maisons, vous savez, les frais, fraîches ou je sais pas quoi, là. Je sais pas s'ils sont meilleurs qu'en supermarché, mais en tous les cas, ils ont un bel étal de fromage. Souvent, j'en achète là quand même.
Là, vous parlez de grands frais.
Grands frais, nous, chez nous, c'est fraîche. C'est pas
grands frais. C'est le même truc, et effectivement, il y a des gros rayons. Fromage, merci Liliane, en tout cas, d'avoir été avec nous. Votre fromage préféré, Liliane, allez.
Je voulais dire bonjour. Je vous écoute tous les jours. Vous savez, je suis en dialyse le matin, donc je vous écoute tous les jours. Et donc,
Alors, on est désolé que vous soyez en dialyse, mais on est heureux que vous nous écoutiez, quoi. Bon,
c'est pas grave, ça me fait sortir de chez moi.
Ah bon, c'est super.
Allez, je vous remercie de m'avoir pris, et je vous écoute tous les jours, du matin 7h jusqu'à la fin de votre émission à vous.
Voilà. Eh ben merci beaucoup, Liliane. Merci de votre fidélité. Voilà, merci. Ça nous fait toujours chaud au cœur d'avoir ces gentils messages. Et on a d'autres messages sur l'appli RMC. Est-ce que nos auditeurs et nos téléspectateurs sont fans de fromage?
Oui, j'ai ce message de Delphine. Bonjour, Estelle, le fromage, c'est la vie. Je pourrais aussi en faire mes repas, ne manger que ça. Mais malheureusement, le bon fromage est cher. Donc j'ai beaucoup diminué et espacé ma consommation. J'alterne avec des laitages type yaourt nature, bien moins cher. Bonne journée.
Il y a un truc qui est sympa, c'est de faire des soirées fromage. Chacun amène un fromage. Alors, il y a toujours celui qui dit ah, moi j'aime pas ça. Bon, là, ça va.
C'est un peu pour toi.
Exactement. Tu mangeras la salade et les noix qui est à côté et la confiture de cerise. Mais en fait, c'est des soirées assez sympas. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as rien à préparer à part enlever le paquet du fromage.
Il faut du bon pain.
Il faut acheter du bon pain, du bon fromage
et du bon vin.
Mais non, mais avec modération.
Oui, avec modération, mais bon, pas avec du coca.
Mais tu fais les soirées formidables et tu passes pas ton temps derrière les fourneaux non plus. Donc, ça, c'est plutôt assez sympa. Notre invitée sur ce débat, c'est Véronique Richer-Lerouille. Elle est présidente de l'Association des fromages du terroir, créatrice de la Journée du fromage et auteure du livre Les labels pris en otage aux éditions Éric Bonnier. On est un peu 100% fromage avec vous, Véronique. Hein.
Absolument. C'est 100% fromage, 100% lait cru.
Mais ça vient d'où cette passion?
Ça vient de loin. Dans les années 2000, j'entendais des producteurs de fromage au lait cru qui se battaient contre les normes sanitaires. Certains pleuraient de voir leurs fermes fermées par des contrôleurs qui arrivaient au petit matin. On n'est pas aux États-Unis en France, on est au pays du fromage, et moi ça m'a fait mal au cœur d'entendre ça. Je me disais qu'ils avaient besoin d'être aidés. Et du coup, j'ai créé la Journée nationale du fromage. Et j'ai créé dans le même temps l'association Fromage de Terroir. Et puis, petit à petit, j'ai pris ma plume. Et j'ai enquêté, je me suis aperçue que le problème n'était pas que de venant de l'Europe, mais aussi de la France.
C'est-à-dire ?
Qui a tendance à appliquer de manière trop
drastique
des normes sanitaires qui ne sont pas adaptées. On ne peut pas faire du fromage de qualité au lait cru sans accepter la vie, le vivant. Il faut bien comprendre qu'un fromage de lait cru est un fromage vivant, un fromage stérilisé, hein, parce qu'il s'agit de ça, le reste c'est des fromages morts. Et cette image, elle parle aux gens, parce que le goût c'est le vivant, c'est la biodiversité, c'est le maintien d'une ferme, de troupeaux, de races ancestrales, c'est des liens sociaux, c'est des villages où il y a des gens qui se parlent, et puis on a en face l'industrie qui gagne du terrain. Alors on n'est pas contre l'industrie, bien sûr, elle a le droit d'exister, mais aujourd'hui, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'elle fait dans, par exemple, les labels ? Elle n'a pas sa place, là. Chacun chez soi, et je dirais que si on veut encourager encore des productions fermières et artisanales, si on veut défendre une certaine idée de la France et du goût, et j'entends qu'il y a des amateurs, là, eh bien, voilà, il faut se battre aussi pour ça. On ne pourra jamais... un fromage synthétique, c'est un produit ultra transformé, et qui est très cher.
C'est vrai, vous avez raison.
Ça n'a aucun intérêt.
C'est-à-dire, bien sûr qu'en grande surface, c'est un peu moins cher, mais ce n'est pas du tout le même produit non plus.
Complètement. Alors, après, il y a des fromages que tu trouves en fromage industriel, genre, je pense au Caprice des Dieux, par exemple, on a tous, les enfants, ils adorent le Caprice des Dieux. Bah, évidemment, ça n'a pas beaucoup de goût, mais la croûte est plutôt sympa. Donc voilà, il y a aussi, à un moment, un enfant de 3, 4 ans, au départ, il ne va pas aimer forcément les goûts forts. Après, à nous, parents, de leur faire aimer.
Il y a des fromages, de très bons fromages à AOP léger.
Oui, je suis d'accord.
Vous dire, j'ai fait des dégustations dans les écoles parce que la journée nationale.
Ah bah j'allais y venir justement.
Elle a été créée en 2001. Alors,
d'accord.
J'ai pu faire plein de choses et tester auprès des enfants des fromages forts. Et je venais dans les écoles à l'époque où les fromages ou les crus n'étaient pas encore interdits. Eh bien, les enfants préféraient les poisses, préféraient le maroilles. Ils adoraient ça. Ils retournaient en manger alors que la maîtresse me disait non, il n'aime pas le fromage. Ben, en fait, il adorait ça. Et donc, c'est pas du tout une idée. C'est des idées reçues. On fait croire que les enfants aiment les fromages doux. C'est inexact. Les enfants sont curieux du goût.
D'accord.
Plus vous leur faites découvrir des goûts différents, insolites, etc. En plus, d'ailleurs, le maroilles, les poissons, pas forcément
du fromage
fort, d'ailleurs. C'est des fromages typés.
D'accord.
C'est souvent doux, la croûte est relevée, mais la pâte n'est pas forcément forte.
D'accord.
Eh bien, ils sont curieux. C'est comme ça qu'on forme le goût, c'est l'éducation.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Véronique Richer-Leroux, d'avoir été avec nous. On va prendre tout de suite Cédric en ligne. On parlait des cantines. Et Cédric, il est chef de cuisine en restauration scolaire, primaire et maternelle du côté de Caumont, dans l'Ariège. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour.
Alors, on le disait, c'est assez rare de voir des vrais fromages dans les cantines, des fromages AOP, mais je crois que vous en avez dans vos cantines, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que j'expliquais à l'interlocuteur que j'ai eu juste avant, c'est que nous, au niveau de la loi Egalim, on est obligé de mettre un maximum de pourcentage AOP et bio.
D'accord.
Voilà, sauf que moi, je travaille avec une cantine scolaire qui est faite pour des maternelles et des primaires.
Ouais.
Et avec les maternelles, on n'a pas le droit au lait cru.
Ouais. D'accord, ah oui, bien sûr, ouais, voilà. C'est ça, il y a aussi des normes, bien sûr, sanitaires, mais vous leur donnez quoi comme fromage aux enfants ?
Ah bah ça peut être du petit basque, ça peut être de la fourme d'Ambert, ça peut être du Cantal, du Comté, tout ce qui est à base de lait pasteurisé, enfin le compte.
Et la fourme d'Ambert, ça passe ?
En lait pasteurisé, vous n'avez pas des tonnes de fromage, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais la fourme d'Ambert, ça passe ? C'est plutôt prononcé, quand même.
Vous en avez en pasteurisé, ouais.
Et est-ce que les enfants laissent le fromage dans leur assiette pour le coup, ou est-ce que il y a un engouement pour le fromage ?
Non, le fromage est apprécié. Hein. Après, effectivement, pour tout ce qui va ressembler un petit peu au bleu d'Auvergne ou autre, là, c'est plus compliqué.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt les fromages avec moins de goût. Mais j'imagine que vous leur servez aussi du Babybel et des Kiri ou pas du tout ?
Oui, forcément, oui.
Ouais. Et ils préfèrent quoi ?
C'est apprécié,
oui. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est le problème. Après, on a tous mangé du Babybel quand on était petit.
C'est comme une
pomme
de terre au four des chips, tu vois, ce que va préférer l'enfant. Hein.
Ouais,
oui.
Ouais.
Bah, oui, mais oui, bah enfin, on a tous mangé des chips aussi. Tu
oui.
Vois, voilà, bah, le petit Babybel.
Le Babybel, c'était pour faire des bougies avec le.
Oui, mais t'as quand même le plaisir déjà de faire une boule avec la croûte rouge.
Bah oui.
Et puis aussi aussi d'ouvrir la croûte, quoi. Tu vois, sans couper les deux parties. Donc voilà, c'est le Babybel, c'était aussi la vie quand on était petit. Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous. On va terminer avec Alexandre qui nous appelle de Pau et qui est fromager au Hall de Pau. Quel joli métier, Alexandre.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe. Bonjour
Alexandre, c'est quoi le fromage que vous vendez le plus?
Le fromage qui part le plus en soi, enfin, depuis 20 ans que je suis au Hall maintenant, ouais, c'est le comté.
Bah, mais le comté vieux ou le comté jeune?
Alors, moi, le jeune, au départ, il a un an, et ouais, je monte jusqu'à des fromages qui ont quasiment 4 ans.
Oh là là, et ça c'est ma vie ça.
Voilà, ça c'est...
Le comté 40 mois, 36 mois, là c'est formidable.
Et voilà, mais ça c'est des petits plaisirs que je fais pour Noël et Pâques, et après le reste de l'année, j'ai du 1 an et du 2 ans, et le 2 ans est très très parfumé, et il part très très bien.
Et Alexandre, est-ce que vous constatez un changement de goût chez les Français? C'est-à-dire, est-ce que finalement les fromages avec le moins de goût sont les plus prisés aujourd'hui? Est-ce que les habitudes des Français ont changé?
Alors, l'habitude a changé, effectivement. On est sur un adoucissement des saveurs.
Ah oui.
C'est vrai qu'on a moins de fromages fermiers typés, comme si on avait l'impression d'être dans les tables.
Hein. Ouais. On a la boulette d'Avène, tout ça.
Ah, ouais, la boulette, c'est compliqué. Nous, ici à Pau, ouais, c'est compliqué.
Oui. Oui, c'est sûr.
Mais après, moi, je vois par rapport à l'appellation Soirati, en pure brebis, on part sur des fromages qui sont assez floraux et ça passe très très bien. Mais c'est vrai que les vrais fromages comme des caprons ou des bleus bien bien secs et bien affinés ou des fromages de chèvre bien affinés, c'est pas dans notre culture régionale, on va dire. Après, je pense qu'il y a la culture des régions. On consomme pas le fromage de la même façon d'une région à l'autre.
Ah bah c'est sûr, dans le nord, ça va être effectivement la boulette d'Avène, le maroilles,
la mimolette de Darras ou de la Côte d'Opale.
Ah oui, allez-y.
Pas affiné. Moi, si j'ai pas mes camemberts qui coulent, mes clients, ils en veulent pas, quoi.
Bah bien sûr. Mais on lui dit à Fred Hermel que c'est une hérésie d'aimer le camembert plâtreux. Il n'aime pas.
Vrai Normand le mange plâtreux. Mais voilà. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un spécialiste du fromage qui m'a expliqué qu'en fait, le Capéris des Dieux avait beaucoup de mal parce qu'on voulait maintenant des fromages comme ça, doux, mou, tout ça. Et donc, le camembert, de plus de gens voulaient la pâte molle, etc. Moi, j'aime bien quand c'est dur, quand c'est plâtreux. Les vrais, on le mange comme ça.
Comme ça, personne ne se bat. Mais ça, c'est les camemberts de rebut, tu sais. C'est les camemberts du fromager. Je dis, merde, celui-là, j'arriverai jamais à le vendre.
Non, mais c'est la richesse du camembert aussi. Comme la plupart des fromages, en fonction de son âge, il a un goût différent.
J'aime le comté très vieux, mais j'aime le camembert plâtreux, chacun son truc.
Alexandre, est-ce que vous avez constaté, malheureusement pour vous d'ailleurs, une baisse des ventes de fromage ces derniers temps?
Alors, non, pas du tout.
D'accord.
Moi, pour ma part, non, pas du tout. Ce matin, j'entendais M. Schelser, le patron de Système U, qui disait que la surface, il se cassait la figure. Nous, c'est ce qu'on ressent au niveau local, sur Pau, dans les grandes surfaces qui tirent un peu la langue. Mais nous, on a la chance, dans les Halles, de très, très bien marcher.
Bon.
Voilà. Après, c'est vrai que nous, le truc, comme j'expliquais à Thomas tout à l'heure, c'est que, certes, on est un peu plus cher, voire même sur certains produits, moins cher que la grande surface, parce qu'on a toute la partie packaging que nous, on n'a pas, en fait.
Bien sûr.
Nous, on coupe le fromage. Quand les clients, ils veulent 200 grammes de fromage, je coupe 200 grammes de fromage et j'ai pas besoin de la super barquette spéciale affinage ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà.
Sauf pour le gorgonzola à la cuillère, évidemment. Là, pour le coup, il faut une petite barquette quand même.
C'est une torture de parler de ça, c'est
facile. Alors que nous n'avons pas mangé, je suis d'accord.
Là, c'est...
Alexandre, vous êtes membre du jury du Mondial du Fromage, c'est ça? C'est quand la prochaine édition?
Eh bien, la prochaine édition, c'est au mois de septembre 2025 à Tours. Comme chaque année, enfin tous les deux ans. En fait, on alterne entre le salon du fromage qui est à Paris en les années paires lors du salon de l'agriculture et les années impaires, on le fait à Tours. Comme ça évite d'avoir deux salons une année et pas de salon une année. Donc là, on alterne et c'est vrai que là, on avait goûté de très très bons produits au mois de septembre dernier. On a fait de très très belles découvertes.
Eh bien écoutez, on essaiera de venir faire une petite délocalisation au Salon du Fromage en 2025. Oui, je pense que tout le monde est pour.
On restera une semaine.
Exactement. Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage. On termine avec des messages. Rémi, le résultat de notre consultation sur Twitter.
Ce message d'Emianor qui nous dit « Je suis tellement d'accord avec toi Estelle, au restaurant ». En restauration, pardon, elle travaille en restauration. J'ai passé de super moments partagés entre collègues. Le rêve.
Vers
1h du matin, en tapant dans le plateau de fromage qui était resté en salle durant tout le service. le fromage, c'est la vie.
Le chariot à fromage,
oh là là.
C'est la vie. On avait également Diana, qu'on n'a pas eu le temps de prendre au 32-16, et Diana qui dit « Mon fils de 5 ans mange du bleu, du minster et du chèvre. Il adore ça depuis ses 2 ans, comme quoi c'est possible. Faut-il réhabiliter le fromage à la fin des repas, Rémi ?»
La France est immortelle, c'est oui pour 93% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Merci à tous.
C'est énorme, c'est absolument énorme. Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. Bon, bah, là, on va parler d'une mauvaise nouvelle. Vous ne serez peut-être pas payé en mars. Enfin, vous serez payé en avril, mais oui. En tout cas, vous serez payé avec du retard. On va vous expliquer pourquoi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, 14h31. Et c'est l'heure de parler Conso avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et Charlotte, les salariés français sont en panique. Pourquoi ? Parce que ça fait quelques jours qu'on entend qu'on ne sera pas payé en mars. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte ?
Oui, il se pourrait que certains, effectivement, doivent attendre la semaine prochaine pour voir leur salaire de mars arriver sur leur compte. La cause, c'est tout simplement le week-end de Pâques. En fait, pendant ce week-end de Pâques, le système de virement européen qui s'appelle Target 2, par lequel passent les salaires, eh bien, ne fonctionnera pas.
Target 2.
Ça fait un peu film de science-fiction, genre Christopher Nolan, non pas du tout. En réalité, accrochez-vous bien, ça veut dire système de transfert express automatisé transeuropéen règlement brut en temps réel.
Bon. Pourquoi faire compliqué quand vous pouvez faire
exactement.
Simple.
Pour faire tout simplement, ça veut dire que c'est une plateforme par laquelle toutes les banques de l'Union européenne passent pour transférer des fonds entre elles et dans toute l'Europe.
Ce que je ne comprends pas, Charlotte, au témoin d'un doute, mais c'est que vendredi, ce n'est pas férié.
Pas chez nous, pas en Ile-de-France, pas dans une majeure partie de la France, mais en Alsace et en Moselle, oui. En Allemagne, en Espagne, en Italie, dans plusieurs pays d'Europe, c'est férié le vendredi saint. Et donc, le système va s'arrêter ce jeudi aux alentours de 16h30 et ne reprendra que mardi prochain. Mardi matin. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les jours fériés. En gros, tous les jours fériés communs à l'Europe, c'est-à-dire le 1er mai et également Noël. Et le système ne fonctionne pas. La particularité là, c'est que ça tombe en fin de mois, donc au moment où les salaires sont versés, ce qui n'est pas forcément commun.
Et alors, est-ce que les employeurs ont pris leur disposition pour verser les salaires plus tôt, pour faire plaisir à leurs employés?
Oui, normalement, rassurez-vous là-dessus, une majorité d'employeurs sont censés l'avoir fait. C'est en tout cas ce que dit la Fédération bancaire française, qu'ils avaient prévenu les banques, et donc les banques elles-mêmes avaient prévenu tous leurs clients employeurs de ce petit problème. Donc, normalement, ils le savent. Mais sachez que légalement, votre employeur n'a pas d'obligation de vous verser votre salaire le 30 ou le 1er.
Ah bon?
Oui, il peut vous le verser le 15. Il faut simplement qu'il n'y ait pas plus...
Pas.
Bah, faut pas qu'il y ait plus d'un mois de délai entre le versement de deux salaires. Donc, il peut pas vous payer le 1er mars puis le 15 avril. En revanche, il peut vous payer le 15 mars, le 15 avril, le 15 mai, etc. Là-dessus, il y a pas d'obligation.
Il faut quand même qu'ils nous préviennent, parce que
ils peuvent pas changer sans vous prévenir.
Prélèvement, il tombe le 1er et que t'es payé le 15. Enfin, ça n'arrangera personne.
Eh ben, c'est ça. Et dans le cas des jours fériés, il y a quand même une petite tolérance d'un ou deux jours pour le versement des salaires.
Est-ce qu'on a un recours, nous salariés, si jamais le salaire a trop de retard? C'est-à-dire que si par exemple on est prélevé d'un loyer alors que le salaire n'est pas arrivé et qu'on est à découvert à la banque et qu'on a déjà jour.
Alors la première étape à faire, c'est d'envoyer un courrier recommandé à votre employeur, et si jamais ça ne fonctionne pas, prud'homme, conseil des prud'hommes. Oula. Alors c'est dans un cas extrême, hein, évidemment. Il faut savoir qu'un retard de paiement de salaire, c'est une infraction pénale qui peut donner lieu à une amende qui va jusqu'à 2250 euros. Cela dit, il y a quand même une tolérance, et les juges font... Non, il faut savoir qu'il ne faut pas être trop procédurier non plus, parce que les juges font preuve d'une certaine souplesse par rapport à ça. Il y a eu un cas en 2005 d'un salarié qui avait mis son employeur au prud'homme parce que justement il avait touché son salaire trop tard à cause d'un jour férié, et le juge avait dit non, on ne peut pas reprocher une faute de l'employeur dans un cas pareil.
Oui, ça ne marche pas, quoi.
Ça ne fonctionne que s'il y a 5-10 jours de retard.
Alors, sans aller au procès ou au prud'homme, qu'est-ce que vous nous conseillez pour éviter d'être dans le rouge ce mois-ci? Parce que pour ceux qui attendaient d'être payés le 28 ou le 29 et qui vont devoir attendre le 2, bah, ça fait quand même 4-5 jours pendant lesquels vous risquez d'être à découvert. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont à découvert dès le 10 du mois.
Et oui, vous parliez d'Agio. Alors là-dessus, moi j'ai contacté LCL qui m'a répondu qu'il ferait preuve d'une souplesse vis-à-vis des clients qui se verraient impactés, c'est-à-dire si l'échéance du crédit passe avant le versement du salaire, eh bien, devrait normalement ne pas appliquer d'agio ou bien les rembourser. Et si jamais vous avez de l'épargne, vous pouvez toujours faire un un virement intra-bancaire entre, par exemple, votre livret A et votre compte courant pour renflouer les caisses, parce que ces virements-là ne seront pas impactés, les virements instantanés non plus. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne jamais prévoir un prélèvement automatique le 30 du mois ou le 1er du mois. Le mieux, c'est autour du 7 ou 8, et vous pouvez choisir pour votre crédit immobilier, pour tous les crédits d'ailleurs, les factures d'énergie, les factures de votre opérateur téléphonique, vous pouvez demander à ce que ce soit prélevé que le 7 ou le 8. Et c'est toujours mieux parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retard de paiement de salaire.
Voilà, et ça évite d'être dans le rouge trop vite.
Voilà.
En fait, il vaut mieux les égrener tout au long du mois. Merci beaucoup, Charlotte. On parle de quoi demain?
Demain, on va parler des droits des passagers aériens parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont droit à des indemnités quand il y a un retard ou une annulation de leur vol.
Ah bah si, on le sait, mais pour les avoir.
Pour les avoir, c'est la galère.
Exactement.
Il y a des services qui existent pour vous faciliter un petit peu la vie.
Protection juridique, ça marche.
Génial.
Bien.
Par exemple.
Eh bah, merci beaucoup, Charlotte. On a hâte d'être à demain. Et si vous voulez réécouter la chronique de Charlotte, eh bien, vous n'hésitez pas en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, ce sera les immanquables. Rémi, ce seront les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il ne fallait pas rater quoi?
On va notamment parler des possibles hymnes ou chansons qui seront interprétées le 26 juillet au soir lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris.
Ce ne sera pas Edith Piaf?
Si. Peut-être. Enfin, en tout cas, il y a des indices.
Écoutez, on en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec toujours autour de la table Rémi Barré, Benjamin Hamard, Juliette Briens et Fred Hermel. Et voici tout de suite, comme chaque jour, à la fin de cette émission, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Rémi.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et nous allons commencer avec l'hymne du jour.
Alors que les rumeurs d'une interprétation par Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ont créé une certaine polémique, on en avait parlé, eh bien les ayants droit d'Edith Piaf ont bel et bien été contactés pour utiliser gratuitement deux chansons. La première, c'est celle-là.
C'est gay.
L'hymne à l'amour. Et la seconde, ce sera celle-là.
Ah.
Il est entré dans mon cœur. C'est pas mais c'est La Vie en Rose. L'hymne à l'amour ou La Vie en Rose en Mondiovision, les héritières et ayant droit de la môme y seraient totalement ouvertes.
Est-ce que ce sont de bons choix de chansons pour une cérémonie d'ouverture, Benjamin Hamard? C'est pas très gay, c'est pas très,
ouais,
pas très emballant, quoi.
Je trouve ça, ouais, effectivement, un peu fistounet, assez, oui, enfin, c'est une très belle chanson, moi, par ailleurs.
Bien sûr, j'adore Edith Piaf.
Mais bon, ça me semble un petit peu en deçà d'une compétition sportive. On peut choisir des chansons un peu plus dynamiques, un peu plus. Je pense qu'on a voulu choisir un peu une sorte d'image éternelle de la France, mais je pense que le registre et le rythme de la chanson sont pas forcément adaptés.
Souvenons-nous.
Enfin, c'est très personnel, hein, ce que je dis là.
De la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby.
C'était super.
Oui, mais c'était une image très
figée, éternelle, oui.
Figée.
Bah, oui, années 50.
Oui, mais tu peux être un peu entraînant.
Mais c'est parce que je réagis à ce que dit Benjamin. Si on valait encore une fois,
oui, c'est ça.
Là, bon bah, allez,
on fait ça. Mais moi, à titre personnel, on a encore le droit d'avoir une opinion. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Non, mais
après, tu peux avoir des choses un peu plus entraînantes. C'est du sport, quoi.
Oui,
je ne compare pas Edith Piaf à Shakira, mais par exemple,
c'était super Shakira.
Non, mais voilà. Mais tu vois, mais avant la Coupe du Monde 2006, t'avais Shakira.
Oui, Shakira, voilà.
Mais c'est ça que je veux dire, en fait. Il y a un moment où c'est la fête, et je suis désolée, on fait assez rarement la fête avec Edith Piaf. C'est comme si tu mettais Brel pour faire la fête.
Ouais,
on adore Brel.
C'est un formidable chanteur.
On manège à moi.
Ah oui, on peut mettre Vesoul si on veut.
Tiens, j'ai envie de faire la fête, je vais mettre Léo Ferré.
Vesoul, il faut être très fort pour la chanter. Alors, je suis désolée, mais l'hymne à l'amour, chanson écrite par la merveilleuse Marguerite Monod,
oui,
ou Edith Piaf. Non, mais attendez. Cette chanson
bien
là, célèbre, puisque Edith Piaf la chante à New York, juste après la mort de son amant, Marcel Cerdan.
Oui.
Alors, je veux dire, comme message envoyé, c'est quand même assez triste. C'est quand même,
c'est
la chanson d'un drame.
On n'est pas dans la fête, quoi.
Ben, voilà.
On est
d'accord. Ah, par contre, alors, je suis désolé, elles sont très mal choisies. Alors, La Vie en Rose est sûrement la chanson française la plus connue au monde.
Oui,
aux États-Unis.
On a qu'à faire comme d'habitude.
Moi-même, dans un mariage à Miami, on m'a fait chanter La Vie en Rose. Mais il y a surtout une chanson dans le répertoire d'Edith Piaf qui est parfaite pour les JO, c'est Sous le ciel de Paris.
Mais bien sûr.
Ça s'appelle
bien
sûr. À Paris, sous le ciel, il fait beau.
Padame.
Ou Padame.
Exactement.
Bah voilà. Des je t'aime de cadeaux.
Emportés par la foule.
Mais en plus,
tu vois, t'aurais dû être recruté par les soins de c'est déjà beaucoup mieux.
Padame, sous le ciel, Paris, emporté par la foule. En plus, la foule qui, au départ, une chanson argentine.
Oui.
Qui avait été adapté, mais non, franchement, c'est.
Donc, il y a des.
Il y a un truc, mais là, mais c'est. Même ça, ça passe pas.
Après, la foule, on ne sait pas s'il y en aura, parce qu'on ne connaît pas les conditions de sécurité de la cérémonie d'ouverture. Alors, bon, bah, s'il n'y a personne, évidemment, ça n'ira pas. Juliette Briens.
Non, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Pour l'image figée de la France, c'est vraiment ce que les gens veulent de nous, quoi.
Oui.
Ah non, on ne veut pas ça, non. Enfin, moi,
je
veux un truc. Les étrangers, pas vous.
Mais les étrangers, ils veulent peut-être aussi un truc un peu
Émilie
en
Paris, c'est la vision figée de la France. Ils adorent ça.
Mettons tous un béret.
Moi, je suis trop d'accord avec
vous.
C'est ce qu'ils veulent voir quand ils viennent en France.
Mais alors, ils peuvent avoir un.
S'ils viennent en France et qu'il n'y a pas Paris avec de l'accordéon, ils sont déçus.
Émilie de Paris.
Alors, donnez-vous. Ils viennent chez nous, ils veulent cette image figée.
Pour qu'on me laisse la baguette avec son béret.
C'est ce qui fait vendre, c'est ce qui les fait rêver. Donc pourquoi on va aller pourquoi les en priver en fait?
Excuse-moi, ça s'appelle les JO de Paris, ça s'appelle pas les JO des touristes. Donc à un moment,
ce qui compte dans les JO, ce ne sont pas les spectateurs sur place, mais les milliards qui vont le voir dans le monde entier.
On a qu'à tous se déguiser avec un béret, une baguette, ça sera super.
Ils veulent se reconnaître dans l'image, dans le fantasme qu'ils ont de la France.
Excuse-moi, mais pardon, mais je veux dire, quand ça a été, je me souviens plus des musiques au JO de Londres ou encore de Rio, mais oui, mais peut-être. Mais à un moment, on peut aussi, encore une fois, les JO, c'est une fête. Tu peux mettre des chansons d'Edith Piaf plus entraînantes. Là, je trouve que c'est quand même un peu mortifère.
C'est une autre question. Là, t'as raison sur la question de la chanson entraînante. T'as donné des très bons choix.
Edith Piaf, c'est très bien, c'est pas le problème.
On aurait dû se mettre à genoux devant le plus grand auteur ou compositeur ces dernières années qui s'appelle Jean-Jacques Goldman et qu'il écrive une chanson pour les JO. Ça, ça aurait eu de la gueule.
Ouais, ils auraient pris comme toi, là. Comme
on dit. La médaille est bonne.
C'est une belle idée, malheureusement. Parce qu'il aurait créé une chanson pour l'événement. Il aurait fait une chanson. Gay, entraînant.
Bah non, parce qu'il faut que ce soit une chanson qui représente la France, qu'on connaît tous et qu'on puisse tous entonner. Tu vois.
Mais créer une chanson pour un
truc, c'est génial.
Shakira l'a fait et c'est devenu un tube.
Et Johnny Hallyday l'avait fait en 2002, ça nous a pas porté chance.
Hein, on est chanceux.
Ouais, bon, bah,
on est tous ensemble.
Parce que la chanson était nulle. Le problème, c'est pas Johnny Hallyday, c'est celui qui
a la chanson, elle était bien, mais nous, on a été nuls en revanche, ça c'est sûr. La décote du jour.
Une étude établit la décote subie par 30 modèles de voitures prisées du marché français, variant 5 ans plus tard de 25 à 60,75% de la valeur en neuf. Parmi les facteurs qui impactent la décote d'un véhicule, la catégorie énergétique prend de plus en plus d'importance. Si à une époque, l'essence perdait plus de valeur que le diesel, l'électrique se déprécie davantage aujourd'hui.
Parce qu'il y a aussi il y a l'inconnu, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, est-ce que les batteries, quand on achète une voiture électrique il y a 7 ans, est-ce que les batteries vont tenir ?
Une voiture électrique que tu as payé 25 000 euros, mais que la batterie a perdu 30% par exemple de sa capacité, sachant que la batterie, c'est ce qui coûte le plus cher.
C'est ça.
Ah, l'arnaque quand même. Ah, la grosse arnaque des voitures électriques. Mais ça, c'était gros comme le nez au milieu de la figure.
Après, c'est très agréable de rouler en électrique.
Tous ces inconvénients-là, on nous a menti depuis le début là-dessus. Et là, on commence à nous raconter des choses. Voilà. C'est un désastre. C'est un désastre social et économique que les voitures électriques.
Tu peux pas dire ça. Qu'on ait mis trop nos œufs dans le même panier et que le tout électrique ne soit pas la solution. J'entends. Après, tu peux pas que dénigrer l'électrique.
Ça coûte plus cher. Il y a pas d'inconnu et la voiture se dégrade. La valeur de la voiture se dégrade d'une manière incroyable.
T'as une conduite beaucoup plus souple. Pour le coup, ça fait pas de bruit. Moi, je suis désolée, mais pour les gens, je veux dire qui sont à côté d'une route ou à côté d'une route très passante.
Les nouvelles thermiques, elles font pas beaucoup de bruit non plus.
L'électrique, c'est vraiment silencieux. Voilà, t'as un vrai confort de conduite et tout. Il y a pas que du négatif.
Et non, puis, mais pour les gens, au niveau financier, on voit que ça coûte plus cher et ça perd plus vite de la valeur. Oui, ça, c'est une réalité.
Sauf que quand tu fais ton plein, entre guillemets, en électrique, ça te coûte toujours moins cher qu'en diesel et en carburant.
Ça
et
dépend,
tu
sais ça pas. Ça dépend les périodes.
Oui, mais tu connais pas la situation géopolitique dans 1 ou 2 ans. Tu ne sais pas ce qui se passera. Et on a vu quand même que l'essence, à un moment, avait monté à 2,30 le litre.
Bon, tandis que le prix de l'électricité est stable.
Ouais, il est nickel.
Il bouge pas d'un iota.
Non, mais enfin, pour l'instant, c'est toujours moins cher. De faire ton plein en électrique
quand les écologistes veulent un truc, on est sûr que c'est de la daube. Il faut faire le contraire.
Non, mais arrête de dire ça. Non, mais là, tu deviens caricatural. Le classement du jour.
Rungis, Pointe-à-Pitre, Saint-Omer, alors, je suis désolé pour la prononciation.
Pamandzi,
à Mayotte, et Verdun. Ces villes de 20 000 habitants caracolent en tête du classement des violences commises dans la rue et à l'école. Selon le Figaro, elles figurent parmi les 1743 communes de cette taille inscrites dans les rôles du service, dans les statistiques du service de statistique ministérielle de la sécurité interne. Saint-Denis, Rouen et Mulhouse forment le trio de tête pour les villes de plus de 100 000 habitants.
Est-ce que c'est bien de connaître ces classements, Julie Adrien, parce que ça déprécie quand même l'image de ces villes et c'est un peu stigmatisant pour les habitants.
Ce qui déprécie l'image de ces villes, c'est ce qui s'y passe. Hein, malheureusement, on se retrouve effectivement maintenant, alors beaucoup aussi à cause du trafic de drogue, à des petites villes effectivement qui ont toujours eu la réputation d'être toutes calmes, d'être paisibles. Je me rappelle par exemple de Montargis, ce qui s'est passé à Montargis avec les émeutes, c'est incroyable, ils ont totalement ruiné ils ont mis Montargis à feu, alors que Montargis, ça avait toujours été une ville paisible. Et là, c'est pareil, on se retrouve avec des villes qui, tout d'un coup, deviennent des
Rouen, j'aurais jamais imaginé quoi.
Bah oui, mais ça, mais c'est avec le trafic du trafic de drogue, etc. S'il y a des petites cités à proximité qui deviennent j'ai du mal à m'exprimer, je sais pas pourquoi. Où la drogue arrive, et ben ces villes deviennent des coupe-gorges comme ça du jour au lendemain sans prévenir. Oui.
Bon, alors Rouen, coupe-gorge quand même.
Bah, mais il y a peut-être encore moment entre.
Enfin, moi j'ai entendu un reportage encore hier, pas plus tard qu'hier, sur Dijon très rapidement, mais sur Dijon où on sait qu'il y a des gros problèmes de drogue actuellement et que ce sont des caïds venus de Marseille. Oui. C'est des Marseillais qui sont à Dijon aujourd'hui, donc
une phrase.
Non, mais oui, il y a effectivement mais on peut pas s'étonner quand même quand on sait que il y a plus de ministère de la ville à proprement parler, qu'il y a eu une désertion du politique. Enfin, je veux dire il y a des problèmes sociaux, des problèmes profonds en France et bien évidemment, on sait que ça peut engendrer et que ça engendre des phénomènes de criminalité, mais on n'a pas de ministère de la ville et donc on gère ces affaires au coup par coup.
Allez, tout de suite, Vincent Cirousi, notre humoriste. Cirousi n'a pas tout compris, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Cirousi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi les accents sont mal vus en France et je vous vois venir. Vous n'allez pas me faire des accents là.
Pas du tout. Non, j'ai prévu, vous inquiétez pas, ça sera en fin de chronique. Non. Alors, c'est vrai qu'avoir un accent en France, c'est pas toujours facile. Vous en avez parlé, Fred, par exemple, avec son accent du Nord au début, hein, tu me l'as dit, hein, c'était pas évident. Il arrivait devant les gens, il était là.
Bonsoir Miloud.
Il était obligé de s'exiler en Espagne. Personne ne comprenait ce qu'il disait en France. Très compliqué. Non, un accent peut être vraiment handicapant. Jean-Marie Le Pen, par exemple, il a été freiné dans son parcours politique à cause de son accent allemand. C'était pas évident. pareil pour Jean Castex, qui a beaucoup dit que son accent du Sud lui avait porté préjudice dans sa carrière. Alors que tout le monde sait que voilà, ce qui a handicapé Jean Castex, c'est pas son accent, c'est ses idées.
La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise.
Quand tu dis ça, même sans accent, t'as l'air con. Hein. Excuse-moi. Après, il y avait des signes. Quand tu cherches tes lunettes alors qu'elles sont encore sur ton nez, c'est que.
Mais il était fatigué.
Oui, bah, bien sûr, oui.
Mais Vincent, est-ce que vous pensez que l'accent est un handicap?
Écoutez, pas forcément. L'accent du Sud, par exemple, bah, c'est assez gourmand, c'est croquant. Quand tu vas annoncer une mauvaise nouvelle, c'est génial. Si on te dit, par exemple, vous avez une infection pulmonaire, vous allez mourir dans 2 mois. Bon, c'est flippant. Alors que si on te dit, tu as une infection pulmonaire, Fala, tu vas mourir dans 2 mois, et t'as plus envie de boire un pastis que de faire une chimio. Voilà, tout de suite, c'est plus sympathique.
Enfin, c'est pas que ça, l'accent du Sud, quand même, vous êtes très caricatural.
Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est aussi très bien pour les sujets sécuritaires. Hein. Quand tu prends l'accent du Sud, tout de suite, t'es plus crédible. Bah, même Macron l'a fait. Hein.
J'ai proposé sur la suggestion du ministre de l'Intérieur à monsieur le maire que nous financions.
Le ministre de l'Intérieur, et c'est venu d'un coup. T'as vu, il avait un Vincent Moscato dans la gorge.
C'est à Marseille.
C'est ça. Ministre de l'Intérieur. Non, t'as des accents qui sont clairement plus avantageux que d'autres. Bah, regardez, par exemple, entre ces deux femmes, vous avez envie d'embrasser qui? Gertrude?
Comme beaucoup, on a des fois des ennuis de santé, tout ça, mais enfin, ça passe.
Ou Sylvia?
Sabes que estoy loca por ti, querido. A ver, dire que je suis
folle. Moi, personnellement, j'ai un gros faible pour Gertrude. Voilà, je vous le dis, l'accent du Périgord, j'aime beaucoup.
Vincent, vous n'avez pas compris pourquoi on n'a pas parlé de la polémique du t-shirt Louis Vuitton, accusé d'avoir sorti un t-shirt pro-palestinien.
Oui. Louis Vuitton a sorti un t-shirt avec les lettres L et V aux couleurs du drapeau palestinien. Alors, évidemment, comme beaucoup, moi, au début, je croyais que le Hamas était rentré au capital de LVMH, mais absolument pas. Pour moi, il n'y a pas de polémique. Le t-shirt coûte 820 euros. Donc, merci la solidarité, quoi. Tu vas faire un t-shirt de soutien que personne peut acheter. 820 euros, c'est le PIB de Gaza. À ce prix-là, c'est pas un t-shirt pro-palestinien, c'est un t-shirt pro-Louis Vuitton, directement. C'est vrai. Après, bon, pour équilibrer et prôner la paix, Louis Vuitton a sorti un caleçon avec un drapeau israélien et palestinien avec le slogan « Nous sommes tous circoncis ». Voilà. J'espère que ça va aider.
Vous ne croyez pas à cette polémique, alors?
Mais pas du tout. Maintenant, le moindre truc que tu fais, t'es considéré comme militant. La pastèque, par exemple, est devenue un symbole pro-palestinien parce que c'est un fruit noir, rouge et vert. Quoi, maintenant, tu manges un falafel, t'es pro-israélien. J'espère qu'ils vont pas reprendre la guerre du Vietnam. Moi, j'adore le boboon, donc ça me fait un peu flipper. C'est juste une opportunité commerciale, quoi. C'est comme là, Louis Vuitton vient de sortir un kebab à 3000 euros. Voilà, salade tomate Vuitton. Je vais l'acheter d'ailleurs, j'ai un petit peu faim là. Merci.
Merci beaucoup, Vincent Cirouci. Tous les jours, 14h50, dans Estelle Midi, en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Vincent Moscato. Oh, on a parlé des accents aujourd'hui, Vincent. Ouais. Ah ouais.
Ça vous plaît, mon accent?
On l'a parlé, j'adore.
On vous a cité.
Ouais. C'est vrai.
C'est très
vrai.
Sexy. Ouais.
Il y a un mec qui m'avait contacté pour les jeunes qui sont discriminés par rapport à leurs accents. Oui. Mmh. Et le mec,
il t'a appelé, mais il n'a pas répondu. Mais
j'ai dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Je m'en cague. Non, mais ça déconne.
Ouais, mais t'as cherché.
C'est devenu la mode. T'es discriminé. Les mecs qui ont fait des trucs
incroyables. T'as fait tout le gabarit. Tu peux tout te permettre?
Ah ouais, discriminé parce qu'ils ont l'accent.
Bah ouais.
Ah bon?
Ah oui. Patrick Fiori est discriminé à cause de son accent. Et Raphaël Gaillard.
Bon, il est quand même gaillard, lui.
Bah oui, il a été discriminé.
Il ne joue pas à l'hôpital. Hein.
Bon, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
Il joue flux, comme. Chrono Muani peut-il devenir incontournable?
Il n'a pas été mal.
Il n'a pas été mal. Si tu le mets 32 fois, au bout d'un moment, il va être bon, non?
Mais oui. C'est
je te jure que si tu me fais faire 30 matchs de basket avec l'équipe de France, un jour ou l'autre, si on rencontre le Chili, au basket, je vais être bon. Je suis sûr que je mettrai un panier. Bon, les blessures s'enchaînent pour l'OM.
Ouais.
T'as vu, c'est, comment il s'appelle, qui est blessé? Klaus.
Ouais.
Klaus qui est blessé. Alors voilà.
C'est un coup dur.
J'ai pas mes lunettes. Le mandat
de Gassé. Mais ça se voit, tu le lis ou pas?
Maintenant, je sais, je l'ai réussi.
C'est comme
on dirait Castex. Je bataille.
Alors
non, t'as vu, Castex, les lunettes, quoi, c'est des loupes. Le tête.
Allez!
C'est gros yeux.
Bon, on a plus le temps, là. On a plus le temps.
Si on a le droit. A-t-on le droit de ne pas être à fond en équipe de France?
Je sais pas. Allez, j'espère que tu vas être à fond, en tout cas durant ces 3 heures. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite.
Je découvre les gens de mon émission.
C'est bien que tu découvres ton émission.
Non, mais là, c'est bidon, complet. Il va falloir faire 3 heures avec ces merdes.
Et nous,
comment on va faire
demain sur RMC, midi 15h.
Tout le monde peut être à fond dans l'équipe de France.
Ouais. Et bonne journée à tous sur RMC.
Moi, j'ai fait 10 ans à l'école et j'étais pas à fond. Donc, on peut être une heure et demie, on peut l'être. Et crois-moi, j'étais pas à fond. Ça va, monsieur Barré?
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.